Session de théologie naturelle par le père Marie-Dominique Philippe Arimo, le 26 mai 1995, 7e conférence. Ça m'a fait beaucoup penser, ça.
c'est-il grand problème aujourd'hui au point de vue de la coopération avec la nature? Cette coopération implique justement que on respecte la nature. Dès qu'on l'exploite, on ne la respecte plus. Le travail ennoblit la nature et ne la détruit pas. Et ça, je crois que c'est très important. Pour moi, toute la philosophie du travail aujourd'hui, c'est ce problème-là. Le travail reste humain quand il n'exploite pas. Mais à tous les niveaux. Parce qu'il y a le travail de l'éducateur, c'est du travail. Un éducateur qui exploite. Et ça arrive. Vous savez, quelle différence y a-t-il entre une idéologie et la philosophie? C'est que l'idéologie mesure l'homme et fait que les hommes doivent être soumis à l'idéologie. La philosophie est au service de l'homme.
Semble que c'est l'amour d'amitié
relation d'homme à homme qui fonde la morale. S'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de morale. Dès que responsabilité, il peut y avoir morale. Alors, vous voyez, cette chose importante de voir que l'amour d'amitié nous permet de voir une morale qui soit au-delà de la morale kantienne, la morale du devoir. Soit une morale qui est toute entière prise par l'amour et qui nous donne le sens de la responsabilité de nos actes et qui nous fait découvrir ce que c'est que l'homme. Je crois que ces deux grandes expériences qui sont nos deux grandes expériences humaines, l'expérience de l'amour d'amitié et l'expérience du travail, fondent profondément l'anthropologie, en comprenant que cette anthropologie doit se développer dans une famille et dans une cité. Parce que, justement, la coopération au niveau famille, au niveau cité, est capitale pour comprendre le bien commun. Dit bien commun, dit le bien qui n'est pas d'un seul. L'éthique se fonde sur mon bien, mais la politique se fonde sur le bien commun. Et le fondement de la politique, c'est la famille. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est très très important de se le rappeler, de le comprendre au plan philosophique. Cette anthropologie, c'est déjà très beau. Une anthropologie fondée sur ces trois grandes dimensions, c'est quelque chose de très grand. Mais il faut encore comprendre que l'intelligence veut aller plus loin. Parce que l'homme qui travaille, travaille une matière. Et il a en lui une connaturalité avec cette matière, par son corps. Et donc, il faut une philosophie de la matière. Et je dirais, en raison du marxisme, c'est très important de montrer que il faut comprendre ce qu'est la matière. Et vous voyez, le travail exige cela. Si je veux aller jusqu'au bout d'une philosophie du travail, je dois comprendre que le travail implique toujours une matière qui n'est pas le fruit du travail, qui est un donné. Mon donné comme travailleur, c'est l'univers, c'est le monde, c'est la montagne, c'est le lac, c'est la mer. C'est le donné. Et je dois comprendre ce que c'est. Et par là, je dois regarder ce qu'est le corps de l'homme. Parce que le corps de l'homme est quand même la réalité matérielle, quantitative, la plus proche de moi. Et c'est un petit monde. Se comprend en fonction du vivant. peux comprendre parfaitement ce que c'est que l'homme doit faire une métaphysique. Parce que l'homme est capable, par son intelligence, de comprendre ce qui est en tant qu'il est. Et d'autre part, existe une réalité première, j'ai parfaitement le droit de poser l'hypothèse. Parce que historiquement, des hommes très importants et intelligents ont posé la question. Existe-t-il une réalité première que les traditions religieuses appellent Dieu? Puisque le mot Dieu n'est pas au sens strict. Un mot que le philosophe a inventé, c'est un mot transmis par les traditions religieuses. Mais le philosophe doit se poser la question, est-ce que c'est un mythe de parler de la création? Ou est-ce que c'est la réalité à laquelle je dois nécessairement me heurter? Signature du créateur sur son œuvre. S'il existe, il a dû signer son œuvre. Il y a le maître de l'œillet, n'est-ce pas, Fribourg ? Il signe en mettant un petit œillet, c'est très joli ça. C'est merveilleux. Alors quel est l'œillet qui montre la signature de Dieu en nous ? Vous n'êtes jamais posé la question. Hein. Pourtant, les théologiens et les pères de l'Église se sont posé la question, pas tout à fait comme je dis. Quelle est la signature de Dieu? Pas commode, hein. Elle est très cachée, vous allez dire. Ça, vous pouvez toujours commencer comme ça. Très cachée et très très difficile à découvrir. Mais il doit y en avoir une quand même. Alors, oui, commencer à voir, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'amour d'amitié? Est-ce que c'est la coopération? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est la vie? Non, non, non. Ça ne peut être que ce qu'il y a en nous de tout à fait premier et de plus radical qui ne dépend pas de nous. Mon exister d'exister des bordées de bois. Voyez, je serais pas comme ça. Je sais pas, peut-être vous direz l'inverse. Non. Je suis tellement bien que c'est comme ça. Je pourrais pas faire mieux. Si vous n'existez des bandes de moi, est-ce que je ferais comme ça? Je crois pas. On voit toujours des êtres qui sont tellement mieux que nous. Oh, si on serait comme ça. Ah, j'aurais sa tête, j'aurais ses mains, j'aurais ses pieds. Non, oui, je vois très bien. Et puis j'aurais ses perfections. Et puis j'aurais son intelligence. J'aurais sa capacité d'aimer. Moi, ça passe à des limites. C'est très curieux, chercher, parce que ça, c'est la question. Je crois que depuis Kant, on est obligé de se poser la question comme ça. C'est du reste très intéressant. Saint Thomas l'avait déjà posé comme ça. Et Saint Thomas n'hésite pas de dire que c'est ce qu'il y a de commun à tous les êtres qui est la signature de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de commun à tous les êtres qui existent? L'exister. Le petit caillou existe. Et c'est à cause de cela que Raïssa parle de l'intuition de l'être. C'est très curieux. Raïssa, l'épouse de Jacques, Maritain. Parce qu'un beau jour, Raïssa a regardé son petit chat. Elle s'est dit, il existe. Et moi aussi. Oh, c'est curieux. Comment ça se fait qu'il existe et que moi aussi j'existe? Peut-être qu'il est tout à fait différent de moi. Et je suis tout à fait différent de lui. Mais on existe tous les deux. Vous voyez, l'œcuménisme fondamental de tous les êtres, ils existent. Donc, s'il y a un être premier, c'est nécessairement par le point de vue de l'exister que je peux remonter jusqu'à lui. Ça, c'est très intéressant à voir. Ce n'est pas par l'intelligence, puisqu'il y a des quantités d'êtres à côté de moi qui n'ont pas l'intelligence. Le monde, la montagne, la main, la mer, les éléments, ils existent. S'il y a un créateur, il est créateur de tout. Il est créateur de la mer, il est créateur de feu, de tout. Même si ça évolue beaucoup, il y a quand même quelque chose au point de départ. Il y a eu la matière. Et donc, ça ne peut pas être l'intelligence. Ça ne peut pas être la vie. Il y a des êtres qui ne vivent pas. C'est vrai. Quand on va dans la Lune, on s'aperçoit que la vie n'y est pas. C'est ça qui est terrible. Tandis que nous, partout où on va, la vie se trouve là. Il n'y a que quand on va à la mer morte qu'on a une expérience de la non-vie. Puisque cette mer morte. Mais c'est vrai, tous ceux qui ont été là ont fait cette expérience. Surtout s'ils se sont plongés dans l'eau. Il n'y a pas de chant d'oiseau. Il n'y a pas de moustique. Volant. S'il y avait un petit ronron de moustique, au moins il y aurait de la vie. Mais le seul point commun de toutes les réalités que je vois, c'est qu'elles existent. Donc, il faut que j'étudie ce qu'est l'être pour découvrir s'il existe un être premier. Ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus pour comprendre la nécessité d'une philosophie première, d'une métaphysique qui étudie ce qui est en tant qu'il est. Puisque ce qui m'intéresse quand même, c'est la grande question de ma vie. un être premier quand même. Ma vie doit être polarisée d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, ça en verra ensuite. Mais elle doit être polarisée vers cet être premier, qui est ma source, qui est mon créateur. L'acte créateur porte non pas sur la vie, mais sur l'être. Sur ce qui subsiste en soi et pour soi. Alors à ce moment-là, vous voyez, la métaphysique ne devient pas du tout du luxe. Ou la philosophie première ne devient pas du luxe. Ça devient une nécessité pour mon intelligence qui recherche la vérité, de comprendre ce qu'est, ce qui est. Je saisis en moi, je suis. L'être que je saisis dans la petite brique, dans la pierre, ou dans l'herbe, ou dans la vache, ou dans le minet, le champ. Et tout ça, en réalité, ce n'est pas l'intuition de l'être que Raïssa a saisi. Elle a saisi cette relation très curieuse qu'on retrouve dans toutes les réalités. Elles existent. Il y a quelque chose de commun entre l'homme et la pierre, entre l'homme et la mer. Il y a quelque chose de commun qui me permet de poser la question, qu'est-ce que c'est que ce qui est ? Et c'est mon intelligence qui découvre ça. Ce n'est pas mon expérience sensible. Mon expérience sensible saisit les couleurs, saisit la lumière, saisit la matière. Mais à travers l'expérience sensible, mon intelligence dit ceci est. C'est l'intelligence qui saisit. L'être qui est. Et je le découvre toujours à travers le mouvement, à travers la vie, à travers les opérations vitales, à travers l'acte créateur de l'artiste. Dieu n'est pas l'acte créateur de l'artiste. Dieu n'est pas ma vie. Dieu n'est pas mon devenir. Il n'est pas ma matière. Il n'est pas mes opérations vitales. Mais il est présent à travers tout cela, puisque tout cela existe. Alors, si Dieu existe, il est le créateur de cet exister. Mais il faut donc que j'étudie qu'est-ce que c'est que l'être. Alors là, nous entrons, vous voyez, dans cette étude si importante d'une philosophie première. Vous voyez, aujourd'hui, il vaut mieux dire philosophie première que métaphysique, parce que depuis Heidegger, il y a eu un enterrement de première classe de la métaphysique. Alors, c'est pas la peine de discuter sur les mots. Si Heidegger veut que la métaphysique soit bien enterrée, très bien, il a mis un autre mot à la place. Il a mis ontologie fondamentale. Ah, j'aime pas beaucoup. J'aime mieux dire philosophie première. Aristote n'a jamais dit métaphysique. Il a dit philosophie première. Beaucoup. Puis après, un petit livre qui était au-dessus de tout ça. Alors on a dit après la physique, on ne sait pas ce que c'est, après la physique, je ne dis pas après moi, déluge, mais presque, vous voyez. Je crois que les bibliothécaires ont dû dire ça. Enfin, Aristote a toujours dit philosophie première ou théologie. Je sais très bien qu'il y a des discussions énormes là-dessus, mais moi je suis convaincu que la philosophie première est ordonnée à la théologie. Théologie naturelle, théologie de l'intelligence. Et Aristote, indépendamment de la révélation, montre comment la philosophie première est ordonnée à une théologie, à un logos, puisque théologie ça veut dire un logos sur Dieu. L'intelligence humaine peut parler de Dieu d'une façon rigoureuse. C'est pour ça qu'il y a un logos sur Dieu. Et c'est la théologie. Alors, vous comprenez, si la philosophie première conduit à la théologie, vous comprenez comme c'est important. Alors, on dira un tout petit mot sur la structure de la philosophie première et comment le problème se pose. Pour découvrir le sens de Dieu et comment le philosophe répond. Avant de terminer, je voudrais très rapidement réflexion théologique. Donc on change d'enregistre. Changement de vitesse, quoi. Je ne dis pas que c'est du rétro, mais c'est au contraire aller devant, aller un peu plus loin. En se servant de la foi. Je vous ai dit, il y a un phénomène tout à fait unique dans l'histoire de la pensée. Et ça, je crois qu'on l'oublie trop. Et ce phénomène tout à fait unique dans l'histoire de la pensée, c'est ce raz-de-marée des idéologies athées. Avant, il y a eu des moments d'athéisme. Les sophistes, parmi les sophistes, il y a un athée. Mais on n'en parle pas beaucoup. Il n'a pas eu une très grosse influence. Parmi les agnostiques, non. Parmi les théologiens, non. Heureusement. Et parmi les autres, je me souviens, sitôt la guerre, quelqu'un qui revenait de captivité et qui avait fait beaucoup de philosophie avant, qui n'était pas agrégé ni son agrégation, qui donc normalement ne devait pas enseigner en Sorbonne, mais comme il avait été en captivité, il avait un petit galon et on l'avait nommé professeur. C'était un ami. Et il a mis comme cours en Sorbonne le problème de Dieu. Alors, premier cours, une résistance énorme de tout un groupe d'étudiants marxistes, communistes. Vous n'avez pas le droit de mettre cela. Alors, il leur a dit, vous ne pouvez rien comprendre à la philosophie européenne si vous ne regardez pas ce problème sur Dieu. Il avait raison. L'athéisme, c'est un phénomène qui est arrivé à tel moment, qui a duré tant de temps, et qui connaît de durée, d'une certaine manière. Mais c'est un phénomène très nouveau. Et pour le comprendre, il faut comprendre comment cet athéisme naît dans un horizon chrétien. Et c'était tout à fait juste. Vous n'avez pas du tout ce même phénomène dans l'Inde. Et ceci, c'est facile à comprendre. C'est que la foi chrétienne mûrit l'intelligence d'une façon telle que l'intelligence humaine, quelquefois, n'arrive plus avoir sa propre vitalité. Alors il y a une réaction. Parce que normalement, la foi chrétienne ne devrait pas susciter l'athéisme. C'est sûr. Mais quand, de fait, la foi chrétienne n'est pas portée par une intelligence vivante, on a l'impression que la foi étouffe. Alors, il y a la réaction. Réaction de Descartes, réaction ensuite d'Auguste Comte, Feuerbach. Alors, le théologien qui prend conscience de cela essaie de saisir que représente exactement, dans une perspective chrétienne, ces athéismes, ce mouvement d'athéisme et ces divers athéismes. Voyez la question. Le père de Lubach s'était posé la question. Il avait parfaitement raison. Et moi, ça m'avait beaucoup intéressé, ce petit livre du père de Lubach, sur l'athéisme contemporain. En disant, l'athéisme contemporain peut se comprendre par un aspect négatif, il peut se comprendre aussi par un aspect d'aspiration à l'exaltation de l'homme. Tous ces athées cherchent quel est le bonheur de l'homme. Et ils s'opposent, alors le père de Lubach ne dit pas ça, mais je continue sa réflexion, ça s'oppose aux béatitudes évangéliques. C'est en terre chrétienne que sont nés ces athéismes en opposition aux béatitudes évangéliques. Or, les béatitudes évangéliques, selon saint Augustin, sont le fruit des sept dons du Saint-Esprit. Alors, j'écris ces béatitudes évangéliques, et puis nous essaierons de comprendre l'attaque, je peux dire, hein, en tant que chrétien, démoniaque, contre les béatitudes évangéliques. Si ceci est vrai, je peux alors me poser la question, ces athéismes contemporains ne sont-ils pas les antichrists dont saint Jean parle dans sa première épître? Ils sont sortis de chez nous. Ils sont sortis de l'Europe. Ils sont sortis de chez nous. Ils sont sortis du christianisme, d'un christianisme mal compris, d'un christianisme qui, à la place de rester dans un regard réaliste, est contaminé par l'ontologisme, c'est-à-dire cette confusion de la pensée et du réel existant. Mais c'est quand même né à l'intérieur du christianisme. Alors, je prends la première béatitude. Bienheureux les pacifiques, don de sagesse. Bienheureux les pauvres, don de crainte. Je prends tout de suite les deux extrêmes. Le don de sagesse et la crainte de Dieu. Troisièmement, bienheureux les cœurs purs. Don d'intelligence. C'est saint Augustin, ça, qui est le premier a vu cela. Ça a été repris par les pères de l'Église et ça a été repris par Thomas d'Aquin. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, vous savez. confiance. Bienheureux les doux, dont le conseil. Bienheureux les miséricordieux, dont piété. Bienheureux ceux qui ont faim. Je ne discute pas cela. Ce serait très intéressant, au point de vue théologique, de bien voir ces liens. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas beaucoup. Parce que ça vient de Saint-Augustin et que ça vient de Thomas d'Aquin. Mais ça va très loin et c'est très beau. Personnellement, je trouve que c'est une découverte merveilleuse de voir comment les béatitudes fleurissent en nous à partir des dons du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de vivre des béatitudes du Christ. Alors, si l'hypothèse de recherche est juste, on va essayer de voir quels sont les athéismes qui s'opposent aux dons du Saint-Esprit. Alors, je vous donne ce qu'il me semble être cela. On peut discuter, n'est-ce pas? Et vous discuterez toute la nuit. Parce que c'est merveilleux à penser ça, n'est-ce pas? Quelle est l'opposition parmi les athéismes? Parce qu'il faut prendre la note dominante. Qu'est-ce qui caractérise? Eh bien, je crois que c'est voyez, il faut mettre des pointillés, hein, parce que c'est l'axe dominant. C'est-à-dire ce qui est exalté par ces différentes idéologies athées. Et alors, pour, qu'est-ce qui est exalté dans Freud? Qu'est-ce qui est exalté dans Nietzsche? Volonté de puissance. Ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est la conquête, hein, c'est la créativité. Et Freud, le repliement sur soi, la conscience de ce fait du complexe d'Oedipe. Sartre, c'est la force et l'autonomie absolue que l'intelligent a quand elle nie. C'est bien cette pauvreté très radicale qui est en nous, le primat de la négation, la néantisation. Moi, je suis donc comprend, c'est la limpidité de la connaissance mathématique. Auguste Comte, c'est l'exaltation de toutes les sciences positives. Huxley, c'est l'évolution prise absolue. C'est l'adaptation. C'est l'antithèse du conseil, du doux, de la béatitude des doux. Celui qui est doux, c'est celui qui se plie aux autres, qui ne heurte pas. Marx, c'est le point de vue, l'antithèse du don de piété. Et Nietzsche, le point de vue de la créativité. Vous voyez, c'est très étonnant. Alors, Feuerbach, d'une certaine manière, est comme une source cachée. Vous avez la huitième béatitude. Bienheureux ceux qui luttent. Alors là, c'est juste l'inverse. C'est cette religion de l'humanité. L'humanité est bonne. Et donc, il ne faut surtout pas lutter. Il faut toujours s'aimer, s'embrasser, c'est la fête. Non, c'est la fête constante. C'est huitième. On peut très bien le mettre en huitième. Parce que d'une certaine manière, elle est la source de tout. Je crois que ça nous aide à comprendre comment ces différentes formes d'athéisme sont vraiment des antichrists. C'est pas les hommes qui ont inventé ça. Tout le but du démon, c'est de montrer à Dieu qu'il a eu tort de créer l'homme et la femme. Il les a créés à sa ressemblance et à son image. Et l'homme est capable de rejeter Dieu et de nier qu'il existe. Et que si de fait il rejette Dieu et le nie, il n'y a plus de coopération